Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec moi, mes deux comparses habituels. Salut Rémi, salut Vincent, comment allez-vous?
Yo tout le monde.
Salut Gus, salut tout le monde, et bah écoute, ça va nickel.
Attends, parce que ça va beaucoup moins bien depuis que t'as allumé ta caméra, Vincent, parce que cette moustache du Movember est dégueulasse.
La bonne grosse moustache. On est sur de la vraie moustache.
Et toi, Morini, ça va?
Ouais, ça va moyen. Écoute, je trouve qu'il y a deux équipes, les deux sont nuls, c'est chiant.
Ouais, c'est compliqué un peu pour les Clippers.
C'est un peu relou.
Ouais, j'avoue. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur les trophées individuels. On va nommer quelques personnes qui ont bien commencé ce début de saison et qui se sont déjà positionnées sur les trophées. Sortez tranquillement de votre lit, faites couler le café, le reste on s'en occupe, c'est parti. Et on commence tout de suite avec le MIP. Côté MIP, je rappelle, donc Most Improved Player, donc le joueur ayant le plus progressé. On a volontairement pas sélectionné les joueurs qui sont sophomores, puisque par principe, quand tu es rookie et que tu passes une deuxième saison NBA, il y a forcément une marge de progression quand tu as du temps de jeu. Du coup, on n'a pas pris ces personnes-là. En revanche, on a une super progression côté Brooklyn de Cam Thomas, qui passe de 11 points à 27, et surtout qui augmente les assists et les rebonds un petit peu aussi, avec une ou deux unités par ici. C'est surtout, en fait, le gars, il a pris confiance, il a intégré le 5, et en fait, il est en train de montrer que il peut tous les jours être titulaire en NBA, quoi. Donc ça, c'est assez cool.
Titulaire, et puis avec un vrai rôle, quoi. Ouais. Enfin, je veux dire, là pour le coup, c'est l'option offensive numéro 1 à Brooklyn. On pensait tous que ce serait Mikal Bridges. Et en fait, ils se partagent la balle pour l'option numéro 1. Enfin, ouais. Limite, c'est Cam Thomas en premier.
Ouais, c'est vrai qu'il a. On voit le talent qu'il a en fait. Et offensivement, c'est ouf. Il nous avait déjà montré quelques petits échantillons quand même.
Sur certains matchs l'année dernière, ouais.
Il avait fait des gros cartons, genre on avait dit what, mec il sort du banc, il envoie des 35, c'est quoi ça?
L'an dernier il avait fait 109 ou 110 points sur 3 matchs, je crois, un truc
ouais,
comme ça.
Il avait fait, ouais, quand il y avait personne et que du coup vas-y, il avait la gonfle. Oui, on est d'accord, faut quand même aller scorer. Et là cette année il fait, mais tout le temps du coup, donc ouais. C'est sûr que lui dans la course au MIP il est bien parti, c'est clair. S'il continue sur la saison sur cette lancée, c'est sûr qu'il sera dans les candidats au titre.
Ouais.
On a aussi une belle augmentation de stats pour Scotty Barnes, mais surtout un statut qui a changé, où Scotty Barnes est vraiment maintenant l'option numéro 1 des deux côtés du terrain, parce qu'en fait le gars défend trop bien, on en reparlera plus tard dans certains trophées. En tout cas, Scotty Barnes, sur l'exercice 2022-2023, il était à 15 points, 6 rebonds et 5 passes. Il est maintenant à 21 points, 10,5 rebonds et 6 assists. Et il y a une réelle progression à 3 points puisqu'il a augmenté son pourcentage de 10%, il est à 38%. Et en défense, comme on le disait, il est passé de 0,8 contre à 2,1 par match. Donc c'est très très sérieux. Je le mettrais presque au-dessus en termes de qualité par rapport à Cam Thomas. Et c'est surtout parce que Toronto peut-être pourrait jouer plus de choses que Brooklyn... arriver vers la fin de saison, quoi. Donc si Scotty Barnes maintient ce niveau, ça va être déjà c'est génial pour Toronto, et en plus de ça il risque potentiellement de prendre ce petit trophée. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi c'est mon favori.
Complètement d'accord avec ça, moi Scotty, j'adore le mec, et puis en plus de ça les stats sont folles, la production statistique, l'augmentation est folle, mais en plus de ça, comme tu l'as dit, ouais, y a un vrai rôle, quoi. Là c'est un vrai leadership, en plus il le montre. La remontada face aux Spurs dimanche soir,
il est magnifique.
Il est exemplaire.
Merci Scotty.
Non,
je dis ça parce que je l'avais en TTFL.
Ah, ok.
Ah, ouais. Par contre, quand à la mi-temps, j'étais à moins 2, j'étais en train de l'insulter dans mon canapé, on va pas se mentir.
La première mi-temps n'est pas très belle.
Non. Elle est vraiment, même pour le coup, elle est vraiment dégueulasse parce qu'il met
pas
un shoot.
Elle est pas belle de Toronto. Hein.
Il met pas un shoot. Ouais, ouais. Non, de Toronto en global, mais du coup, c'est vrai que lui, il n'y a pas. Parce que des fois, il y a des équipes qui sont nulles, mais il y a un joueur qui arrive quand même à sortir son épingle du jeu, et là, même lui, ouais. C'était compliqué. Par contre, la deuxième mi-temps qu'ils nous ont sorti, dont lui, en fer de lance, c'est sûr que. C'était assez ouf.
Il a fait très très mal.
Mais c'est vrai que le changement de rôle est important, je pense, en fait, pour avoir ce trophée. Et du coup, pour le coup, là, lui, il passe vraiment de deux, troisième option, parce qu'il y avait Fred VanVleet et Siakam, à première. Et là, pour le coup, vas-y, c'est sa franchise, en fait.
Dans le même. Ça fait beaucoup ressembler au trophée que Randle avait eu, au final, dans la, dans la gestion et dans la globalité du truc. C'est un joueur qui était très intéressant dans une grosse équipe avec d'autres joueurs à côté, et une fois qu'il avait son indépendance, il a vraiment brillé et il a pris ses responsabilités. Donc de ce côté-là, ça me fait penser un peu à Julius quand il a eu son MIP aussi.
Alors je souhaite à Scotty de faire mieux que Julius par la suite, mais ouais, c'est un peu l'idée.
Bah, c'est surtout qu'on souhaite à Scotty de jouer au moins 2 saisons de suite sans être Anthony Bennett, genre, tu vois.
Moi je m'avance, mais pour Scotty, tu vois, Julius Randle, c'est son plancher, en fait. Voilà.
Vince, t'en penses quoi?
Je suis d'accord avec Rémi. Parce que Randle, quand il... Alors, par contre, ce que je souhaite pas du tout à Scotty, c'est qu'il ne fasse pas des saisons à la Julius Randle, c'est-à-dire qu'il alterne une saison entre être... Moi, je vais abuser parce que... entre être LeBron James... et ensuite, Anthony Bennett. Vraiment, le mec fait une saison sur deux. Allez, cette année, c'est quoi? Bah, décidément, année 2023-2024 pour Randle, c'est plus du Anthony Bennett, hein, vraiment.
Au Media Day, il fait un pile ou face, et puis il regarde la caméra, il fait désolé.
Ouais, c'est terrible. Mais j'aurais bien aimé qu'il tire 2 fois de suite la même année, quand même. Enfin, 2 fois de suite le LeBron James. Quoi, parce qu'Anthony Bennett, en sur deux, c'est chiant. Du coup, tes objectifs sont plus les mêmes, vraiment, pour le coup.
Ouais, désolé à tout le monde, mais les Knicks, c'est difficile en ce début de saison, surtout pour Randle. Vince est en train de
en train de souffrir un peu. C'est pas que moi, on parle de Knicks dans cette émission, parce qu'on parle de trophées, quand même. Hein.
Ah bah, peut-être plus tard.
Détrompe-toi, Rémi.
Ça tire à balle réelle.
J'ai un troisième candidat, moi, pour le MIP. On a Tyrese Maxey, qui évolution du rôle aussi, qui passe de 20 points à 25. Qui passe de 3 rebonds à 5 et qui prend de 3,5 à 7 assists et qui garde les mêmes pourcentages avec un volume de shoot plus important. Il tourne à 48% au tir aux côtés de Joel Embiid. Du coup, il a carrément pris la place de James Harden et pour l'instant, il le fait avec brio. Il avait commencé très très fort le début de saison. Là, il retourne un peu sur une moyenne de points un peu plus basse, mais quand je dis basse, c'est environ du 20 points. Cette globalité, ça l'amène à 25 points de moyenne. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est notamment que sur le terrain, il se comporte comme un vrai patron et pas seulement parce qu'il est juste poste 1, c'est qu'il parle beaucoup avec ses coéquipiers. En défense, il a de la voix. On a aussi Maxey qui a fait des efforts sur la défense, notamment sur les lignes de passe.
Il peut que faire des efforts. Hein.
Ah bah, c'est pas son rôle premier, en attendant, non, il a fait des efforts. Et pour le coup, ça c'est assez intéressant à voir, et en tout cas, offensivement, il y a une progression certaine, et pour l'instant, les Sixers, ça bénéficie aussi de ça, et le bon début de saison de Philly, c'est aussi grâce au bon début de saison de Maxey.
Mais quand t'as un duo qui tourne à 60 points par soir, c'est solide. Hein.
Bah oui, c'est sûr. Mm. Un truc à ajouter, Vince, sur le MIP?
Bah, hormis que Maxey, de toute façon, il peut pas faire pire défensivement que James Harden. Après, en attaque, s'il s'en rapproche, c'est bien. Hein.
Bah oui, c'est ça.
Là, pour l'instant.
C'est un beau résumé. C'est un très beau résumé.
Voilà. Fin. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que depuis le début de saison, il est impressionnant, même dans sa régularité, je trouve.
Ouais.
Parce que, justement, des joueurs comme ça, des jeunes joueurs et tout, ça peut être un peu...
Un peu fougueux.
Un soir sur deux. Et au final, non, là, tous les soirs, il montre qu'il peut jouer au même niveau tous les soirs. Et c'est important pour les Sixers s'ils veulent espérer quelque chose, en fait.
Bah ça, c'est sa plus grosse progression.
Je sens très serein. Ah oui, c'est clair.
Je vais répéter ça souvent, mais l'échantillon de match est encore trop court pour vraiment se prononcer
sur les français.
Mais en tout cas, ouais, avant, il était assez peu régulier. Et là, pour le coup, ils ont joué quoi, 8 matchs pour le moment. Ouais. Et il est assez régulier dans ce qu'il fait et ça, c'est bien. Moi, j'en mentionne un qui, pour le moment, n'a pas les stats parce qu'il n'a pas les pourcentages, mais ça se mentionne quand même, c'est Jordan Poole. Parce qu'on l'a dit dans les previews, le mec a munitions limitées. Donc, s'il termine à 28 points de moyenne, c'est pas impossible. Donc,
oui, c'est vrai.
Dans un rôle, les pourcentages ne sont pas là, mais attention pendant la saison, ce que ça va donner.
Et puis après, comme diraient nos chers confrères de NBA Extra, ils jouent aux Wizards, donc voilà.
En départemental 3.
On envoie tout de suite le prochain trophée, on se penche sur le Six Men, et là ça va faire plaisir à Vince, parce qu'on a notre cher Emmanuel Quickly qui sort du banc côté New York, et qui amène pas mal de choses offensivement en tout cas.
Ah bah pour le coup, oui, après, il avait déjà été dans la discussion l'année dernière. Hein. Deux ou trois, ouais. Il était dans les trois derniers, je ne sais plus. Ouais. Et clairement, c'est pas un scandale. En fait, il va continuer de faire ce qu'il sait faire en sortie de banc, surtout offensivement. Défensivement, bon, il a un peu des lacunes, mais
C'est pas là qu'on l'attend.
Ah là, exactement. Vas-y, ressort du banc, amène 20 points, 15 points sortie de banc là, et amène ce que les Knicks, ils ont pas trop. Exactement. Non, mais en vrai, c'est vrai. Non, mais alors, en plus, moi, j'adore parce qu'en fait, il se pose pas de questions en fait. Il arrive, il dégaine, il s'en branle en fait. Le mec, il arrive, il transition, pan. Et en fait, Thibodeau lui laisse faire ça. Donc en fait, c'est bien. Il joue avec la confiance. Et c'est son rôle en fait. Donc vas-y, ah ouais, moi je pense que ça va. Et je trouve que dans le jeu, ils sont similaires avec Tyrese Maxey. Alors avec un cran en dessous pour Quickley. Mais je trouve que dans le jeu, dans la façon de jouer, quand tu les regardes, même ils ont la même tronche et tout, les mecs, ils ont des dreads et tout, tu sais, les petits meneurs qui vont vite, machin, dans la façon de courir et tout. J'ai l'impression que c'est des cosy, quoi. C'est ouf.
De ouf.
Je trouve que Maxey, c'est un peu amélioré la création, contrairement à Quickley, mais je vois ce que tu veux dire.
Bah, Quickley, c'est le scoring avant la création. Lui, il est même, vas-y, mets des paniers, point, on s'en bat les couilles, il fait pas de passe, ça sert à rien.
Ouais.
Complètement d'accord avec ça.
Mais par contre, Quickley, je trouve que c'est très bien ce qu'il apporte en sortie de banc, mais j'ai l'impression qu'il ira pas tellement plus haut. Tu vois, il a 15 points de moyenne, je le vois pas arriver avant.
Non.
Je le vois, tu vois.
Non, parce que ses temps de jeu vont pas beaucoup. C'est pareil, il a pas non plus. Il joue pas 35 minutes.
Ah bah non.
Donc c'est vrai que c'est. Je pense que voilà, c'est son. Il restera dans ces plafonds-là. Après, peut-être.
Je pense qu'il restera dans la discussion, mais. Je sais pas, je le sens pas trop fait encore une fois pour lui. Ouais.
Ah bon, tu sais, 15 points marqués pour 24 minutes de temps de jeu par match, c'est un bon ratio. Hein.
Ouais, mais tu vois, on a d'autres noms qu'on va citer où les mecs, ils sont là au buzzer final et qui potentiellement auront l'arme pour mettre le dernier shoot, s'il faut.
Alors, ou Quickley, c'est pas ça.
Après, pour le coup, pour regarder un peu les Knicks, il y a des matchs où il faudrait qu'ils soient sur le terrain à la fin. Hein.
Oui, oui,
ça, ah bah, c'est possible. Mais parce
c'est pas le cas.
Pour l'instant, Thibodeau ne le fait pas.
C'est pas le cas parce qu'on a un mec qui a une grosse calvasse sur le banc qui fait pas forcément les bons choix. Mais bon, après. Et encore, calvasse, je suis gentil. Hein, j'aurais pu dire chauvin. Allez, on enchaîne.
Parce qu'en l'occurrence, il est chauve, il est sur le banc.
Ouais, mais il est sur le banc, mais lui, il est assis. Alors que Thibodeau est debout quand même. Hein. C'est la seule différence entre les deux. Vraiment, le temps de jeu vraiment ne change pas entre les deux. Vraiment, c'est.
Oh putain, merde, vivement que Evan sorte de ce bourbier. Moi j'enchaîne aussi avec Cole Anthony du côté d'Orlando, qui tourne à 16 points de moyenne, avec 4 rebonds et 3 passes. J'aime bien ce qu'il apporte. Orlando fait un début de saison hyper correct au vu de leur effectif. Et Cole Anthony n'y est pas pour rien, donc pour le coup, ça c'est assez cool. Pour l'instant, bilan positif. Donc on souhaite à Orlando que ça avance dans ce sens-là. Avec cette équipe de jeunes là qui aime bien courir et qui joue super bien au basket pour l'instant. Donc ça, c'est assez cool. Vous avez regardé un peu Orlando en début de saison ?
Oh bah ouais. Ouais, ouais, c'est un must-watch parce que c'est trop cool à regarder. C'est que des jeunes, il y a du talent et tout. C'est très très cool.
Moi, par ce que j'aime bien, c'est le retour de Jonathan Isaac. Ça me fait plaisir aussi pour lui.
J'espère qu'il va revenir pour de vrai.
Parce que, ouais, bah, mais parce que en vrai, c'est quand même un vrai joueur de basket. Ça fait chier qu'il joue pas. Enfin, qu'il joue.
Pour Cole Anthony, moi, j'ai... Pour le trophée de Six Men, j'ai la crainte, entre guillemets, qu'il soit souvent titulaire dans la saison.
Ouais.
Et du coup, qu'il puisse pas avoir. Parce que vu que c'est une équipe.
Pour l'instant, il a starté aucun match. C'est pour ça qu'on l'a mis là.
Ouais, mais je suis tout à fait d'accord.
Ouais, mais je suis d'accord avec Rémi, moi. Ouais,
et je trouve qu'il est très bien dans ce rôle-là. Mais c'est pas impossible qu'il évolue et qu'il monte dans le start, justement.
C'est juste. C'est juste.
Et du coup, qu'il peut y faire du tort pour le trophée. Mais tant mieux pour lui, par contre.
Un qui risque pas d'être titulaire du côté de Dallas. Moi, j'ai Tim Hardaway qui sort du banc avec 18 points de moyenne. Et qui est là juste pour tirer, hein, parce qu'en termes de stats, il y a juste 4 rebonds, mais à part ça, c'est vraiment que du shoot. Et surtout, bah, il y a un bon 40% à 3 points, donc là-dessus, c'est plutôt correct côté Dallas en sortie de banc. Tim Hardaway, on sait de quoi il est capable. Cette année, pour l'instant, les tirs rentrent. Donc il se place logiquement, au vu du bon début de saison de Dallas, il se place dans la course pour l'instant, à voir si ça va être assez régulier jusqu'à la fin.
Bah lui, ouais, lui, il fait un peu partie des joueurs qui sont un peu clients tous les ans, en fait. Enfin, entre guillemets. C'est des joueurs, ils connaissent leur rôle. C'est comme Lou Williams à l'époque.
Norman
c'est
Powell, comme, depuis quelques
voilà,
années.
C'est des mecs comme ça. Ils savent qu'ils sortent du banc, ils savent ce qu'ils ont à apporter. Et du coup, en fait, plus ou moins tous les ans, ils sont dans la course. Tim Hardaway, on sait très bien que s'il met des shoots, il est dans la course. Ouais, mais au sixième homme de l'année tous les ans. En fait.
On est d'accord avec ça.
C'est vrai. Moi, comme client, j'en cite un en plus. Moi, j'ai Buddy Hield.
Ouais.
Pour le moment, la production n'est pas là. Il fait que 13 points. C'est pas impressionnant. Mais a priori, Indiana ont fait le choix de titulariser Bénédicte Mathurin.
Ouais.
Et pour laisser Buddy Hield sur le blanc. Alors attention à la trade deadline, c'est pas impossible qu'il soit transféré, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, s'il reste dans l'Indiana et qu'il reste sur le banc, il y a un vrai client parce que c'est un bon scoreur, on le connaît, il va avoir le temps de jeu. Et tout à l'heure, je parlais des mecs qui peuvent avoir la balle dans les dernières secondes si dans le cas où
ils passent devant.
Ah bah totalement.
Et c'est le client parce que le mec il shoot à plus de 40% à 3 points. Et en fait, s'il y a un mec dans l'équipe que tu veux qu'il prenne le dernier shoot, c'est lui.
Ah ouais,
et ça pour un six-man, ça joue.
Et malgré Tyrese Haliburton, c'est parce que Buddy Hield, on sait sa qualité de shoot, et en fait, un système où forcément la défense peut s'adapter sur Tyrese Haliburton, en fait, tu peux créer une cascade ou une cascade d'écran pour Buddy, en fait, il va être tout seul et il lui faut pas, il dégaine super vite, et c'est très adroit depuis des années, donc pour le coup, je suis d'accord avec ça. C'est un des six men, comme je pense, je voulais mentionner aussi Malik Monk, c'est ce genre de joueurs qui finissent les matchs, en fait.
On l'a mentionné aussi parce que ouais.
Malik Monk en sortie de banc à Sacramento, c'est 15.5 passes. Et on sait ce qu'il est capable. Il peut largement aller chercher du 20 points quand il y a besoin. Donc ouais. Pour l'instant, Sacramento, ça reste depuis une semaine assez moyen. Donc du coup, Malik Monk un peu derrière, mais malgré tout, bel apport en sortie de banc. Je voulais qu'on se focalise sur les coachs. Et non, il n'y a pas Tom Thibodeau, Vince.
Ah bon. Logique.
Moi j'ai envie de dire, on prend les mêmes et on recommence, sauf que
ouais.
Il y a une belle surprise,
ouais, y a une arrivée dans la saison. Ouais.
C'est Chris Finch du côté de Minnesota, meilleure défense de la ligue. Et pour l'instant, Minnesota est une équipe qui fait peur. Il n'y a qu'une seule équipe qui a dépassé les 100 points, il me semble, face à eux depuis ce début de saison. Ils tournent à 100,3 points encaissés par match.
Alors c'est ça ne joue pas énorme. Grâce au coach, mais ça joue quand même beaucoup.
Ah bah,
on va en parler plus tard, mais il y a un mec qui fait quand même la diff en défense dans le lot.
Ouais, et puis c'est pas un chat.
Non. Non, c'est pas un chat, non.
Je pense que
en tout cas, c'est très fort ce que nous fait Minnesota. Là.
À Minnesota, enfin, après, moi, c'est que mon avis, mais le chat, justement, je pense que je dirais salut le chat. Je prendrais quelqu'un d'autre à la place du chat, alors je sais pas.
Et de moins cher, surtout.
Oui.
Parce que là, le meilleur shooter à 3 points big man de l'histoire qui tourne à moins de 20%, je crois.
Ouais.
Compliqué sur ce début de saison. Ouais. Du coup, ouais, Chris Finch avec Minnesota, parce que la défense de Minnesota, parce qu'il y a le rôle d'Anthony Edwards, où en fait, c'est lui qui a la balle et c'est lui qui a les clés de l'équipe depuis un petit moment maintenant.
Clairement.
Et c'est confirmé après son mondial, c'est confirmé, tous les jours.
Mais on savait déjà l'an dernier, mais là, il confirme de ouf.
Ah bah oui, non mais là en fait il est trop fort. Il est trop fort. Voilà, il n'y a même pas de débat.
Même tu vois le développement de Nasrid, ce genre de joueur, je pense que Chris Finch il est pas pour rien. Et pour le coup, ça c'est super cool. Du coup je disais, les mêmes et on recommence parce que forcément Mac Malone avec Denver.
Ouais.
Logique.
Il a pas encore le trophée.
Alors que ce serait mérité.
Mais c'est bon. Là, ça fait quelques saisons où en fait le coach de l'année c'est censé être lui parce qu'au bout d'un moment Denver c'est régulier. Et comme disait Rémi quand on a commencé à préparer l'émission ensemble, pour nous la chose qui va être déterminante là-dessus, ça va être comment Denver va s'adapter à l'absence de Jamal Murray, parce que ça risque d'être pour quelques semaines et si ce n'est prolongé ensuite. Donc pour le coup, si ça continue de gagner avec des ajustements Mike Malone a secret, ça peut être déterminant pour la suite.
Moi, je pense que ça va quand même continuer de gagner en fait, sans Jamal Murray.
Ouais, moi aussi, je pense que ça peut gagner. Ouais. Alors, attention, ça va faire mal. Hein. Ce ne sera pas la victoire aussi facile que
le montrer.
Mais alors, déjà, premièrement, ça fait très très chier pour Jamal Murray parce qu'il revenait vraiment bien là. Donc, ça fait chier. J'espère que ça va aller pour lui. Mais ouais, je pense que ça peut faire quelque chose. Et Mike Malone, il est loin d'être con. Donc ce serait un bon élément pour mettre sur le CV pour le trophée.
Effectivement. On a aussi Joe Mazzulla à Boston. Oui, tu voulais rajouter.
Moi je voulais mentionner un autre coach, mais vas-y, continue sur Joe Mazzulla.
Du coup, Joe Mazzulla à Boston, parce que ils ont un très gros 5 et sur le banc, ça reste assez faible, entre guillemets, pour le statut que Boston a. Et malgré tout, ça gagne des matchs et ça joue bien. Sam Hauser qui sort du banc, il fait un très bon début de saison. Ils ont des rotations qui sont, je trouve, assez, pas rédhibitoires, mais trop souvent les mêmes. Mais pour l'instant, ça continue de gagner. Donc, à voir les ajustements au cours de saison. Peut-être qu'il y aura des petits trades. On sait que Boston, ça peut toujours bouger jusqu'à la trade deadline. En tout cas, pour l'instant, Joe Mazzulla, très bon taf.
Puis en plus de ça, dans le 5, t'as un très gros 5, certes, mais t'as que des gros noms. Donc il faut les mettre d'accord pour que tout le monde puisse jouer ensemble. Et
ça marche très bien.
Chacun ait ses shoots et tout. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Le groupe a l'air de bien vivre. C'est encore tôt, mais le groupe a l'air de bien vivre. Et tant mieux. Et c'est bien joué.
Effectivement. Tu voulais mentionner qui, toi, Rémi?
Moi, je voulais mentionner Nick Nurse. Je le fais pour toi.
Merci.
Parce que Philly, ça joue très très bien en ce début de saison. On a parlé de Tyrese Maxey et un peu de Joel Embiid tout à l'heure, ça joue très bien. Enfin, tous les mecs qui y a autour, ça joue extrêmement bien. Alors que dans le vestiaire, je pense que c'était pas la fête en début d'année là avec Dossier James Harden. Ils ont réussi à s'en débarrasser pour récupérer des mecs plutôt malins, ça s'est bien joué. Mais n'empêche qu'il fallait les intégrer. Il faut compenser le départ de James Harden, etc. Pour le moment, Nick Nurse, le taf, il est plus que fait. Hein.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la mentalité des joueurs. Et je pense que Nick Nurse n'est pas pour rien. Chaque joueur est responsabilisé et surtout, il a amené de la justesse dans le jeu. On voit que Joel, par exemple, a beaucoup de moments. Et ben, là où il aurait shooté l'année dernière, sur des shoots compliqués, ben là, il va lâcher la balle. Des moments où on se force trop à courir ou à shooter trop rapidement, on sent de la sérénité, ça pose le jeu. Chose qu'on ne faisait pas forcément l'année dernière, surtout en fin de saison et dans les playoffs. Donc pour le coup, si on commence à travailler de cette manière, je pense que pour la suite, ça peut être génial. Et puis surtout, bah, je trouve que faire renaître Furkan Korkmaz, ça mérite un trophée quand même.
Ouais, c'est vrai. Je pense que les fans des Phillies sont quand même contents de passer d'un Doc Rivers à un Nick Nurse.
Ah bah, il n'y a pas photo, je te rassure. Ça met le réveil à une heure pour regarder les matchs, hein, je te le dis.
Est-ce que c'est à peu près le même gap qu'Anthony Bennett, LeBron James?
Ouh, en coaching, ouais, on peut dire ça.
Ouais, ça parle. Hein.
C'est
ouais.
Un Jason Kidd Popovich, si tu veux. On peut faire comme ça.
Ah ouais.
D'ailleurs, très bon début de saison de Dallas, mais on n'a pas mis Jason Kidd parce que c'est pas vraiment un vrai coach, donc voilà.
Ouais,
parce qu'il a le bon de la triche.
Très bon début de Dallas parce que Doncic vient d'une autre planète.
Effectivement. Voilà pour les coachs. On a nommé à peu près tout cela. Évidemment, il y en a bien d'autres qui font début de saison. En tout cas, c'est ceux qui dénotent un peu plus au vu de la situation des équipes. On passe sur le rookie de l'année, Cocorico. On va parler un peu de Wemby. On a aussi du Chet Holmgren et notre cher Rémi a voulu qu'on mette un petit Ozar Thompson et c'est plus que mérité.
Ouais, moi je voulais mentionner Ozar Thompson parce que alors dans les previews j'avais dit que Détroit je m'en foutais, que je voulais pas regarder. Et ben au final Ozar Thompson me fait cliquer sur Détroit et j'aime bien. J'aime bien ce qu'il apporte. Je trouve que le joueur est complet, il réfléchit et tout et trop bien.
Ouais.
Alors, pour moi, il n'est pas dans la course du rookie de l'année parce qu'il y a, comme je disais, il y a une marge de 40 cm entre lui et les deux autres.
Ouais. Pour le coup, il y a vraiment 40 cm d'écart.
Ah oui, non, mais c'était pas un jeu de mots, hein, vraiment.
Mais pour le coup, ce qui est intéressant à Détroit, du coup, là, c'est le trio Ozar Thompson, Cade Cunningham et Jalen Duren qui fait vraiment kiffer pour l'instant à Détroit. Et donc, on a ces trois jeunes qui vont se développer ensemble. Ça mérite que d'être souligné. Et pour l'instant, le taf
est bien. Détroit, c'est l'avenir.
Bah,
alors, attention,
il y a de bonnes bases qui sont en train de se créer.
Ça se trouve, on va retrouver un trio Duncan, Ginobili, Parker.
Là, je pense qu'on va un peu trop loin quand même, les gars.
Alors,
c'est si regarder Détroit jouer, c'est quand même pas ça non plus. Hein.
Je rigolais parce qu'en fait, quand même, quand t'as la main, c'est Killian Hayes, déjà, tu niques ton chien, déjà.
Bah non, c'est Cade.
Bah, c'est plus Killian qui joue 1 et Kate 2, enfin ils font combo quoi.
Faudrait prévenir Killian Hayes qu'il y a Kevin Durant derrière lui quand il veut shooter.
Faudrait prévenir Killian Hayes qu'il faut mettre le ballon dans le panier. Mais il peut demander à Kevin Durant par contre, parce que Kevin Durant sait le faire ça. Pour le coup. Plutôt bien en plus.
On est sévère avec Killian, il a sorti un beau
ouais, match, c'est vrai, c'est vrai.
Le début de saison est moins catastrophique que ce qu'on pourrait croire.
Mais en fait, il a la confiance du coach en n'étant pas ouf. Donc tant mieux pour lui, mais...
Il faut qu'il continue à bosser. Et son début de carrière en NBA est compliqué pour lui. Il faut que ça... S'il y a la confiance du coach des coéquipiers, ça peut venir aussi. Ouais, on s'écarte, Rémi, désolé.
On a parlé vite fait de Chatham Green et Victor. Il faut quand même en parler parce qu'on a quand même deux rookies qui sont des monstres. Il faut le dire.
Bah ouais, clairement.
Les deux sont à plus de 2 contre. C'est leur première année. Déjà, ça, il y a un truc qui ne va pas. Victor, il a combien? Il tourne à 18 points, 17 points.
Il est à 18,8 points de moyenne. Chet Holmgren à 17.
C'est assez proche. Et au bon, les deux sont à 8-9, un truc comme ça.
Ouais, c'est ça. Notre cher Chet Holmgren est à 7,9, donc 8, et Wemby à 8,5.
Ouais. La production est à peu près similaire. Chet bénéficie d'être dans une équipe bien plus complète, bien plus polyvalente. Donc il y a les résultats collectifs. Mais Victor a l'avantage d'être Victor Wembanyama, en fait.
C'est vrai. Alors, moi, tu vois, si on compare les deux, alors, certes, il y a le contexte des équipes qui fait que, mais Chet Holmgren est beaucoup plus propre et beaucoup plus juste dans son jeu pour l'instant. Alors, est-ce
que... Mais ça, je pense que c'est parce qu'il joue avec une vraie équipe. Alors attention, désolé pour les fans des Spurs, mais enfin, c'est quand même encore très brouillon pour les Spurs, il y a encore plein de défauts et tout, ça se voit, et du coup Victor en peine par rapport à Chet. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, Wemby, c'est les responsabilités qui sont plus importantes aussi, donc contrairement à Chet.
On en mentionne un en plus ou pas?
Bah... En soi, on peut noter... Alors, il y a eu du Miller à Charlotte. Bon, il y a eu des histoires extra-sportives. Donc, même si le début de saison pour le joueur de basket, c'est bon, je suis pas sûr qu'il soit éligible au trophée. Donc, voilà.
C'est encore tôt pour le dire, mais pour le moment, il est clairement derrière le peloton. Hein.
Ah oui, bah, de toute façon, on le sait, il y a un duo de tête. Tu voulais noter qui?
Moi, il y en a un que j'ai envie de mentionner, parce qu'il est quand même top 3 de draft et tout le monde en parlait énormément, c'est Scoot Anderson. Pour moi, il y a un début de saison qui est pas ouf. C'est 6 points, 7 passes, 3 rebonds. Les pourcentages sont pas bons. C'est 9%
et
3 points.
Après, pour le coup, il en pâtit aussi du fait qu'il joue à Portland et que Portland, c'est à chier en ce début de saison.
Ouais, mais n'empêche que Scoot, on l'attendait un peu mieux que ça quand même.
Ah, ça c'est sûr. C'était censé être lui le plus NBA ready. Ouais. C'est assez compliqué pour lui. Après, ça peut vite changer. En soi, il n'y a qu'un échantillon de 8 matchs. Donc, Vince, t'en penses quoi un peu de ces rookies-là? Ah, Vince qui nous entend pas.
Ah,
je crois.
Petit problème technique, les gars. Ça arrive.
Eh bien, on va passer tout de suite à un autre trophée. C'est pas grave, on a assez développé sur les rookies.
On fera sans doute le moins intéressant du groupe, alors c'est pas grave.
De toute façon, il est fan d'Enix, donc vous en avez rien à foutre de son avis.
Voilà. Je crois qu'il nous entend, il peut pas répondre, c'est pas plus mal.
Moi, je voulais qu'on parle aussi du coup du Depoy avant d'attaquer le plus gros des trophées. On ne t'entend toujours pas, Vince.
Tu reviendras quand tu pourras, mais là on t'entend pas.
Quitte et reviens au pire du Discord, ça se trouve, ça pourra revenir.
Normal.
Ah oui.
Ah, le retour de Vincent.
Non mais, je suis un fils d'up depuis tout à l'heure, du coup je parle dans le vide. Putain, mais vas-y. Par contre, je vous emmerde parce qu'en fait, je vous ai écouté. Non mais par contre, en fait, là, le souci, c'est qu'en fait, mon casque n'a plus de batterie. Donc là, en fait, là, il va se déconnecter. Donc si vous, soit vous continuez sans moi pendant 3 minutes tant que j'aille chercher le câble.
Ben, on peut le faire.
Bah vas-y, on fait ça, on comble.
Vas-y,
de toute façon,
vas-y.
Comme on a dit, t'es le moins intéressant, donc c'est pas gênant.
J'arrive.
On enchaîne avec le Depoy, du coup.
Ben ouais, on va enchaîner avec le Depoy, en attendant que Vince revienne.
Il va revenir.
Oh oui, sur les rookies, on a
assez débattu. Moi, j'ai envie de commencer direct, on en a parlé vite fait tout à l'heure. Scotty Barnes, il a son mot à dire dans la discussion. parce que le rôle, en fait, est bien plus important. Et parmi les tout meilleurs two-way players, bah, il y a Scotty Barnes. Voilà, il est arrivé dans la table. Il regarde Paul George, Kawhi et tous ces mecs-là droit dans les yeux. Il fait, les gars, j'ai 10 ans de moins que vous, mais j'arrive.
Ouais, c'est exactement ça.
Et alors, il y a Oji Anunoby à côté de lui qui est incroyable en défense. Mais le level-up de Scotty le met suffisamment en avant pour qu'en fait, on parle de lui plus que Oji en ce début de saison.
C'est ça. Oji, il fait du Oji. On savait qu'il était capable de ça. Et là, Scotty, en termes de stats, c'est pas si flamboyant. Par contre, sur le terrain, quand on regarde les matchs, c'est une dinguerie. Donc, la progression statistique sur ses stats défensives n'est pas faramineuse. En revanche, dans le jeu et comment il appréhende et comment il est là sur le terrain à défendre toujours le meilleur joueur en face avec Oji, bah clairement les deux c'est un enfer. Et Scotty, bah il se détache un peu comme tu le disais.
En plus un peu plus polyvalent, je trouve. Scotty, il peut défendre au poste.
Oui,
il est un peu plus tanké que Oji. Ouais, ils font la même taille, hein. De toute façon, à Toronto, ils sont tous
domestiques. Bah, Scotty, il peut défendre du 1 au 4 et Oji s'arrêterait. Oui, voilà. Genre, si tu mets tout de suite un Ford, c'est compliqué.
Ouais.
Donc non, je suis d'accord avec ça. Et moi, je voulais aussi qu'on parle d'Anthony Davis, qui fait défensivement un super début de saison. Il y a 3 comptes de moyenne avec 12 rebonds. Le seul problème, c'est qu'il vient de se blesser. Donc ça se trouve, en fait, s'il commence à louper des matchs, ça va être très compliqué pour lui d'avoir les trophées, parce que maintenant, on le rappelle, il faut un minimum de matchs joués pour pouvoir être éligible.
65, ça ?
Il me semble que c'est ça, ouais. Sur 78.
Ouais. Ouais, puis en plus de ça, enfin, Anthony Davis, on en parle depuis toujours, en fait.
Parce de toute façon.
Match, stress, etc. Mais s'il faisait une saison complète avec le niveau qu'il a, le mec pourrait être discussion MVP et il serait Depoy tous les ans.
Ah bah oui. De toute façon, c'est toujours comme ça.
Le niveau défensif du mec est...
Comme on le disait sur les Six Men, il y a des joueurs sur certains trophées, en fait, ils reviennent tout le temps. Et Anthony Davis sur le Depoy, c'est la même chose.
Du coup, on est obligé de le mentionner.
On est obligé de le mentionner, c'est ça, exactement. Et surtout, c'est le meilleur contreur de la ligue pour l'instant. Donc...
Ouais. Le problème, c'est qu'il a fermé la porte du frigo trop vite, adducteur gauche baisé. Voilà. Dommage.
Les blessures connes à l'Anthony Davis.
Ah, ça, c'est rédhibitoire.
Est-ce que Morvin, c'est de retour avec nous?
Oui,
oui, ah, let's go. Du coup, on a parlé de la défense de Scottie Barnes. Je ne sais pas si tu voulais développer. Et sinon, on a enchaîné sur Anthony Davis. Donc, si tu veux
Anthony
nous
raconter. Davis, qui défend.
Ouais.
Ouais, ouais, il a défendu. C'est bien, il a défendu 7 matchs, il défend plus de la saison.
Ça va, Vincent, super. Là, tu respires.
Je suis pas hyper. Je suis pas hyper de ouf.
Il a tapé un sprint pour aller chercher son truc.
Ah, vraiment, pour le coup, vraiment. Vous me laissez prendre leur souffle, là, et...
Ouais, vas-y, on enchaîne.
Alors, en fait, là, je suis un peu fatigué comme Anthony Davis toute la saison, en fait.
Ah bah non, bah là, il va se reposer, là, Sam.
C'est vrai qu'il va pas se reposer.
Parce que je l'ai dit à l'instant, il a fermé la porte du frigo trop vite, l'adducteur gauche, il est parti, et hop, terminé.
Il a essayé d'ouvrir une bouteille de vin, il s'est mis le tire-bouchon dans la boîte.
C'est un peu ça. Alors, on le répète, surtout. Ne fermez pas la porte de frigo trop vite.
Ne fermez pas la porte de frigo. Restez-y dedans. Ouais. Bon, après, vous devenez comme John Williamson, mais...
Ou comme Kenyon Lofton Jr., qui est retourné dans la rotation à Memphis, d'ailleurs.
Il mange bien la cantoche.
Ah, ça, oui.
Mais d'ailleurs, c'est con pour lui, parce qu'avec l'absence de Steven Adams et tout, je pensais qu'il aurait quelques minutes, en vrai. C'est quand même pas...
Bah, il en prend un peu là où il peut, mais ouais, déjà, il est re-rentré dans la rotation, c'est déjà bien.
Ouais.
Il est là sur le banc. Il y a surtout un gros favori dans cette
course. Ouais, il y a un gros favori, je voulais en mentionner un autre avant.
Ah, vas-y, avant qu'on enchaîne.
Mec, je suis là pour te faire plaisir, en fait, ce soir. Ah, moi, j'ai envie de mentionner Joel Embiid. alors, attention. C'est pas une très grosse mention, parce qu'en fait, la défense de Fila en ce début de saison est très bonne, je trouve. Merci Nick Nurse.
C'est un effort global.
Mais n'empêche que le meilleur défenseur de cette défense, bah, je pense que c'est Joel Embiid.
Assez d'accord avec ça.
Et quand t'as un second rideau comme Joel Embiid, bah, déjà, ça joue.
Ouais.
Et du coup, je le mets un peu en avant pour ça. Donc, je pense pas qu'il aura le trophée. Mais voilà. La petite mention, ouais. Je pense qu'elle est méritée.
Et bah, elle fait plaisir. Moi, je vais attaquer le gros... Oui.
Ouais, alors on attaque... Vas-y, on attaque le gros dossier. Mais du coup, on est bien d'accord qu'on parle du Deep Oi, hein.
Oui.
Oui,
on parle du Deep Oi. Ouais. Ouais, parce que du coup, si on parle de l'attaque, la grosse mention ne fait plus partie de la course, hein, je vous dis direct. Bah,
elle ne fait plus partie du basket.
Voilà, ah oui. Exactement.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, absolument.
Pour le coup, là, c'est vraiment...
Là, on est sur un dossier défensif.
Ah bah là, c'est pur et dur, hein. Vraiment, genre, ne pas regarder l'attaque, vraiment. Heureusement que c'est Deep Oi, hein. Faut bien préciser.
Vous l'avez tous compris, là. Vous avez tous compris quoi, ce qu'on pensait.
On va parler de notre Rudy national, parce que Rudy... Si Minnesota a la meilleure défense de la ligue, c'est qu'il a retrouvé son niveau défensif qu'il avait perdu l'année dernière, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, on a retrouvé le Rudy Gobert de Utah en défense, avec 13,6 rebonds de moyenne, meilleur rebondeur de la ligue pour le moment, 2,1 blocs. Et en fait, la stat de blocs, elle n'est pas si importante, alors qu'en fait, il y a de la dissuasion à balle. Et pour l'instant, alors j'ai une petite stat qui va, le temps que je la retrouve, vous pouvez combler. Qui va mettre notre Rudy en valeur.
Intéressante. Mais du coup, la stat de bloc, elle est un peu faussée. Parce que du coup, maintenant que les mecs connaissent Rudy, il a déjà 3 trophées de défenseur de l'année. Quand t'es en face à face avec lui, bah, tu sais que tu peux pas aller au panier. Tu peux pas prendre ton shoot.
Mais on est d'accord. Bah,
forcément, t'es obligé de prendre un shoot compliqué, un step back ou un truc comme ça. Et tu peux pas. Tu vas pas tenter parce que tu sais qu'il peut te contrer à tout moment.
Mais donc, c'est comme.
La stat de contre, elle est.
C'est comme Victor, hein, là je reviens sur Victor un peu, parce qu'on vous en avait parlé tout à l'heure. Mais en fait, il change toutes les trajectoires de tir, en fait.
Ouais.
Enfin, les matchs, alors ceux qu'on regardait du coup, le match en prime time contre Toronto,
en fait, il y a des tirs de Schroeder.
De Schroeder, parce qu'en fait, il est là. Alors, il n'y a pas contre, mais il est là, en fait. Donc, le mec, il est obligé de lever encore plus sa balle. Bah, et au final, il ne touche même pas le cercle. Donc, en fait,
il fait peur, en fait.
Ah, mais
je sais plus, il y a un joueur qui a fait une déclare en disant j'étais à 45 degrés, je voulais prendre mon shoot, et puis il y avait Victor qui était à 0 degrés, là, il comblait le mec qui était dans l'angle. Et quand je prends le shoot, bah, Victor était déjà là, il avait déjà son bras. Je sais pas compris.
C'est ça le truc.
Mais parce qu'en fait, le mec, il fait le terrain de largeur.
Du coup, c'est là aussi que c'est trop fort, parce que déjà qu'il est plutôt mobile, Victor, il a en plus de ça, même sur les joueurs qui vont plus vite que lui, il reste à 1m50 et il est quand même le tir.
C'est clair.
Et c'est du coup c'est énorme, en fait. Et je pense que
1m44 d'envergure, je crois, un truc comme ça.
Donc je pense ne pas trop mouiller en disant que Victor dans le futur sera dans les courses au Deep Oi.
Ah oui, il aura un Deep Oi.
Je pense que je me foule pas trop en disant ça. Oh non, cette année, ça sera peut-être un peu rapide, mais bon, après, en même temps... Ah,
attention, hein. Attention, parce que là, c'est une 2-3 mois pour s'habituer.
C'est vrai.
N'exagérons rien, brûlons pas les étapes pour vite.
Je reviens sur l'autre côté de la raquette des Français pour les JO avec Rudy Gobert. J'ai retrouvé ma stat. Ses opposants directs en match tournent à 35% au tir. Ce que j'aime beaucoup, c'est que sur cette liste de joueurs, on a pas mal d'arrière. Et c'est là que je trouve qu'il a vachement progressé. C'est que, certes, il y a les duels près du panier, mais on l'a vu. Alors, il s'est fait poster derrière par notre cher Jaylen Brown.
Oh, mais ça arrive.
Mais en attendant, il sort sur les mecs et il fait l'effort de le faire. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Un petit tour des joueurs qui ont déjà joué contre Rudy Gobert et je vous donne leur pourcentage au tir. On a du Nikola Jokic qui tourne à 1 sur 7 pour le moment. Du Trae Young qui est à 3 sur 7. Du Porzingis à 2 sur 6. Jaylen Brown 1 sur 5. Jrue Holiday 2 sur 5. Tyler Herro 0 sur 4. Capella 0 sur 3. Jamal Murray 0 sur 3. Jason Tatum 0 sur 2. Pas dégueu.
Non, mais il est... non mais c'est sûr que il est dans la dissuasion et enfin il est trop important en fait en bah second oui. Rideau
il a travaillé sa vitesse cet été.
C'est ça en fait, il a alors après il a fait une Coupe du monde à chier mais fallait quand même le caler hein, vraiment.
Oui, on peut vas-y.
mais c'est sûr. En fait dans la mobilité latérale, il est mieux et du coup ça lui permet de tenir encore plus les duels. Qu'avant, et pour le coup, bah, tu les as cités, les joueurs, il y a pas mal d'arrière, et même les arrières, ils se cassent les dents, dès qu'il y a Rudy, quoi.
Alors que c'est les arrières qui sont malins, hein.
Ah bah
Trae
oui,
Young, il les fait danser, il met des petits flotteurs, il se fout de leur gueule, il fait Geffroy au Garden, ce connard, bref. voilà. Donc au final, voilà, des joueurs plutôt sympas. Après, il a pris un poster par Jaylen Brown, alors de une, ça arrivera à d'autres. Et de deux, en fait, les mecs qui vont au contre, bah, c'est le risque. Moi, j'attends le premier, que c'est pareil, qui va aller en poser un sur Victor, hein, parce que ça va arriver. Ouais. Hein. Les mecs qui jouent au contre, ils sont plus exposés à ça. Et Rudy, on le sait, il en a pris dans sa carrière, hein, Westbrook,
normal.
Il est monté dessus. Mais c'est le jeu, en fait. C'est le jeu, ouais. Et si tu commences à ne plus vouloir y aller, bah, en fait, tu n'auras plus du tout l'impact défensif que tu as.
Et il continue d'y aller, c'est bien.
Mais c'est très bien, effectivement. Ouais. Donc pour l'instant, ouais, Rudy, grand favori au Depoy, si la saison continue pour Minnesota. Là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord. On part sur le dernier trophée, les gars. Le petit MVP.
Le MVP, yes.
Allez, je vous écoute maintenant. Je vais pas tout vous mâcher. Hein.
Il y en a un qui surclasse un peu, là. Qui est un peu qui marche sur l'eau depuis le début de la saison.
Pour l'instant, il a le
marche sur les étoiles, gros.
Il marche sur les étoiles, carrément. C'est un petit blondinet, ouais. un peu grassouillé.
Un petit blondinet, pas forcément grassouillé, mais fort, costaud.
Ouais,
un peu
rassuré. Je pense quand même qu'il est venu manger 2-3 rillettes de tour pas loin, je pense. Hein,
Ça va. En vrai, ça va, il est affûté en ce début de saison, on l'a connu.
Plus ouais, pas, non, 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 en vrai, il est affûté. Il s'était mis en forme cet été.
Ouais, c'est évidemment le Slovène, bien sûr. C'est aberrant ce qu'il nous fait, il est à quoi? Il est à 33 points. J'ai pas les stats là, t'as les stats ou pas?
Non, je suis en train de les chercher.
Il nous est déjà habitué à très fort.
Là, il fait 31,5 points, 9,3 rebonds, 8,8 passes, le tout à 48% au shoot.
Il prend 13 points à 39% par match.
Ça veut dire qu'il en rentre 4 sur 10. Bon.
Ah bah oui, ça va.
Ah, c'est pas déconnant non plus. Hein.
Ah bah non, c'est très bien.
Il en rentre, laisse tomber, c'est pas d'où ça vient. Quoi.
Tir global ouais. 48%.
C'est ça le truc, c'est trop compliqué. Après, on sait très bien que dans la course au MVP, il y a les résultats collectifs qui rentrent en compte. Et Dallas, ouais. Lui, ça va être ça, en fait. En fait, le truc, c'est que si Dallas, ça va, c'est que lui, ça va. Donc, en fait, si Dallas, ça oui. finit deuxième ou troisième à l'Ouest...
C'est que Luka est MVP.
Bah, en fait, Luka MVP.
Donnez-lui
voilà, le trophée. Voilà, c'est ça. Ça sera ouais. ça, parce que ça veut dire que c'est lui qui a tenu la baraque toute la saison. C'est lui qui a pris tous ses copains sur les épaules. Là. Hop, allez,
ouais, je suis d'accord avec ça. Moi.
Et du coup, ça veut dire que lui, il sera MVP, c'est quasiment sûr. Si Dallas, c'est top 4, allez, top 3 à l'Ouest, à mon avis, Luka, il a son trophée.
Alors attention, parce qu'à l'Ouest, il y en a un autre qui vient de l'Est de l'Europe aussi, qui discute fort. Il l'a pas eu l'an dernier, il a eu un autre trophée, un peu plus grand.
Un peu plus intéressant. Non, mais ouais. C'est parce que le premier trophée, il l'a laissé à un copain camerounais à lui.
Exactement.
Ouais, c'est cool. En vrai, c'est gentil. Hein. Non, on est contenté. Hein.
le duo de MVP qu'on a depuis les trois dernières années, là, nos deux pivots, Jokic et Embiid, bah, pour moi, ils sont toujours dans la course, hein, parce que ce qu'ils nous font, c'est très, très, très fort encore. Hein.
Ah, oui, c'est clair.
Bah, c'est sans surprise, hein. Attention. Mais,
non. Ils nous font ce qu'ils font depuis trois ans. Et pour le coup, bah, effectivement, ils sont encore dans la discussion. Alors, sur ce premier échantillon de match, il n'y a pas photo. Une petite stat de notre cher Jokic, parce que du coup, on voulait savoir s'il était encore en triple-double. Bah non, il fait pas d'effort. Parce qu'il est à 29 points, il est à 13 rebonds et il est à 8 passes. En vrai, vas-y gros, fais pas chier, va chercher le triple-double. Putain, t'en fais pas assez là.
Et il va peut-être dépasser Westbrook cette saison. Je crois qu'il est à 40 triple-double de Westbrook.
Ah oui, ouais.
Ah ouais,
je sais pas s'il va en faire 40 en une saison quand même, Jokic. Oh.
Non, mais et Westbrook, je crois que c'est 40, ouais.
Il vient de dépasser LeBron.
Il vient de dépasser LeBron. Ouais, il a dépassé LeBron. Ah, c'est peut-être pas 40, c'est peut-être plus que ça.
Ouais, parce que Westbrook, il a pris une sacrée avance quand même.
Ouais, c'est vrai que Westbrook, il est.
Westbrook, il est numéro 1. Il y a encore Magic Johnson en chemin. Et...
Ah, Westbrook, il est 1. Westbrook, il est Westbrook, il est tout seul devant.
Il doit y avoir Magic Johnson et peut-être Jason Kidd en chemin, un truc comme ça, non?
Non, il y a Oscar Robertson.
Ah oui, oui, bah oui, évidemment.
Ah oui, il y a Oscar.
On oublie les anciens. My bad.
Bah non, faut pas.
Mais j'ai. Non, mais j'ai peut-être dit des conneries. Hein. 40, c'est vrai qu'en fait, quand je le dis, ça me paraît pas beaucoup.
Ah, tiens,
ouais, non, je pense que c'est plus.
Il a son 108e triple-double, ce qui est déjà très bien.
Oui, ce qui est déjà. Donc,
au niveau
oui,
du
déjà
classement.
Énorme.
Au niveau du classement. Alors, si les pop me laissent tranquille, ça le place.
Westbrook, on a fait 198. Donc, il y a 4.
Il est 4e. Il est 4e.
Il y a 90 triple-double entre.
Ah non, il est à 90. Il est à 90 matchs, ouais.
Devant lui, il y a Magic Johnson à 138. Et... On a Oscar Robertson à 181 et Westbrook à 198. Voilà.
Ouais. Bah, mais ouais, mais.
Enfin, déjà, t'es quatrième all-time au nombre de triple-double, frérot.
C'est pas mal.
C'est quoi là?
Il... Non. Il est pas
parce qu'attention, il va faire sa quatrième saison de suite où il est en triple-double ou quasi triple-double.
Ouais, quasi triple-double.
Avec ça, plus de ça, avec 60% de réussite au shoot et puis 30 points de moyenne. Vas-y.
Il a que 28 ans. Il va aller en choper.
C'est ça le truc. Et quand t'es pivot.
Par contre,
quand
il a 28 ans, mon oncle, il en a 60, il a la même gueule que lui. Hein.
Ouais, par contre,
c'est le même. Hein.
C'est vrai que pour le coup, il fait plus vieux. Mais en vrai, il a 28 ans. Et au final, je pense que quand t'es poste 5, tu peux jouer jusqu'à 35, 36. Parce que vu les qualités athlétiques de Nikola Jokic. On va pas se mentir qu'il peut jouer avec un fauteuil roulant, c'est pareil. Hein.
Ah bah oui, il ira à la même vitesse.
Ah bah vraiment, il ira... Ah, il ira
plus vite en fauteuil. Il ira
plus vite en fauteuil. Il ira plus vite en fauteuil, pour le coup. C'est sûr. Hein.
Et pour coup, le coup, je le mentionner aussi, parce que pareil, l'impact du mec est hors norme. On en parlait avec Tyrese Maxey, le duo qui fait trop mal. Enfin, jouer à l'Embiid, c'est 32 points, 11 rebonds, 6 passes. Donc, on n'est pas sur un Nikola Jokic à la passe, mais enfin, quand même que 6 passes, quoi. Hein, c'est pas déconnant.
Bah ouais.
Juste trop fort.
Moi, j'ai envie de noter en pêle-mêle trois joueurs qui sont dans la discussion, mais qui, pour l'instant, sont derrière. On a du Tatum, a du Donovan Mitchell, et on a du Shai Gilgeous-Alexander.
Moi, je peux en rajouter un.
Vas-y.
J'en rajoute un parce que pour vraiment, le classement global est bon, et j'ai envie de le mettre, c'est Anthony Edwards. Il n'ira pas chercher le trophée. Mais vas-y, j'aime bien le mettre dans le débat.
Il sera dans le top 10 cette année, certainement.
Je crois qu'il avait dit que sous 5 ans, il était MVP. Depuis quand il est arrivé à NBA.
Il a dit début. Ça il y a 5 ans. Alors attends,
ouais, il avait fait une déclat, mais ça fait pas 5 ans. Hein.
Non, non, bah non. Ça,
NBA, mais ça doit faire 3 ans qu'il est en NBA, je crois.
Ouais, ouais, comme ça.
Donc,
mais attention, parce qu'en vrai, c'est un vrai client. C'est un vrai, vrai client.
Franchement, Minnesota, ça dégage le chat, ça prend quelqu'un d'autre. T'as pas la même équipe non plus, hein.
Ah non, c'est sûr, déjà, oui, non, c'est clair.
Après, ça dépend aussi de ça, en fait, le truc, c'est que c'est pareil, moi, je vous rejoins sur Shai, mais je pense que les OKC n'aura pas des assez bons résultats collectifs.
C'est ça, parce que l'Ouest, c'est trop dur.
Pour ça.
Quatrième saison.
À l'Est, par contre.
Ah, oui,
OKC à l'Ouest, oui. OKC à l'Est, c'est différent.
C'est troisième, quatrième,
je pense que c'est... On est dans cette zone-là, Après, moi, j'aime bien Tatum.
Pour Lucas, c'est pareil aussi, hein, remarque.
Bah, c'est promis. Hein. Mais non, moi je donne ma pièce à Tatum, quand même.
Okay.
Ça peut aussi. Hein. Ouais, moi, il me fait peur, Tatum, pour le français cette année.
Bah, Pour moi, justement, je pense que Boston va réussir. Si... Alors après, c'est pareil, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, les résultats collectifs font dans ce trophée de MVP. Mais pour le moment, Boston, ça déroule quand même bien. Après, il y a des choix que je comprends pas trop. Que ce soit pas Tatum qui ait les derniers ballons, je comprends pas. Sur après, le match contre Minnesota...
Oui. Je suis d'accord avec cette
dernière position. Sur le match contre Minnesota, elle est pas, c'est pas bien joué en fait.
Pas certain et que pour ce moi, soit c'est... ce que Joe Mazzulla ait dessiné sur la tablette.
Ouais, je pense ouais. que.
Je... Ouais, ça va juste partir en impro, je pense.
Le seul truc qui peut faire que Tatum soit moins dans la course, c'est qu'en fait, les rôles soient pas ultra définis à Boston.
Moi, je pense que les rôles sont définis, mais qu'il n'y a pas une très grosse marge.
Pour moi, il n'y a pas de discussion non plus. Mais est-ce que dans le vestiaire, c'est pareil? Je ne sais pas.
Ouais, ça, ça va. C'est ça.
Là où Tatum pourrait tirer son épingle du jeu, c'est sur les confrontations directes avec ceux qui peuvent remporter le trophée, où en fait, il explose tout.
Ouais.
Ouais.
Et du coup, tu prends une avance certaine parce qu'en fait, face au mec contre qui tu te bats pour le trophée, bah, t'as été trop fort. Mmh. Voilà. Ça peut être une option.
Ouais, c'est clair.
Du coup, faut qu'il fasse mieux que cette nuit face aux Sixers, mais après, voilà.
Après, moi, j'ai une autre mention, mais vous allez dire que je suis un suspoule encore. Non, je rigole.
Ah ouais, là, j'aurais balancé direct.
C'était vraiment juste pour la vanne, hein, vraiment. Mais LeBron James, on t'oublie pas, gros. LeBron, viens prendre un petit vote ou deux, quand même.
Bah oui.
Allez, on s'arrête là avant qu'on dise trop de bêtises. Bien sûr. L'émission a déjà bien tourné, on va s'arrêter là. C'est ainsi que se termine cette émission. On espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter @WakeUpNBA. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Vive le basket, vive la NBA. Ciao.
Ciao tout le monde. Allez tout le monde.